Bienvenue dans le quatrième épisode du balado PMA et puis quoi. PMA pour procréation médicalement assistée. Inspirante l'histoire de Kim, un bébé surprise malgré le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques. Aujourd'hui, infirmière au cœur de la PMA. On reçoit Jessica Pessant-Lahaye, infirmière en chef à la clinique Fertilis. On parle profession, passion, responsabilité et empathie. Un balado 100% bénévole, initié par La Cigogne n'a pas notre adresse. Bonne écoute! Je souhaite la bienvenue à mon invitée, Jessica Pessant-Lahaye, qui est infirmière actuellement à la clinique de procréation assistée Fertilis. Elle œuvre dans le domaine de la fertilité depuis maintenant 6 ans. Alors, j'ai le grand plaisir de l'accueillir. C'est important pour nous de parler à Jessica, plonger dans son milieu de travail, puisque l'évolution, en fait, au niveau de la fertilité a vraiment évolué rapidement, je crois, dans nos dernières années. Alors, bienvenue, Jessica, avec nous.
Merci beaucoup, Alexandre.
Dis-nous, Jessica, quelles ont été tes motivations à travailler dans le domaine médical de la fertilité humaine?
Ben, en fait, moi, avant, j'étais infirmière à la salle d'accouchement. Donc, j'ai assisté beaucoup de couples à donner la vie. Puis, j'ai aussi rencontré des couples qui avaient passé par la procréation assistée avant d'avoir un enfant. Puis, en fait, ça m'a vraiment donné le goût de m'en aller dans ce domaine-là pour aider davantage. Là, je trouvais vraiment que c'était des couples qui étaient touchants. Je trouvais que la grossesse est tellement précieuse, je trouve, de gens qui viennent de fertilité. L'accouchement était encore plus particulier, donc ça m'a vraiment donné le goût d'aller voir en fertilité. Puis, c'est là que j'ai commencé à travailler chez Fertilis, puis vraiment, j'ai eu la piqûre, comme on dit. Vraiment, je suis sur mon X, là. Je m'épanouis pleinement là, dans ce domaine-là. Là.
Donc, tu as vraiment une connaissance d'un milieu différent, ben, qui se rapproche quand même là, quand on parle de, justement de la salle d'accouchement, les grossesses, les parents. Mais quelles ont été tes formations, dis-moi, pour vraiment te spécialiser en fertilité humaine? Est-ce que c'est offert à Montréal? Comment qu'on se met à jour, qu'on continue à se garder à jour dans les avancées médicaux?
Bien, en fait, c'est sûr qu'en tant qu'infirmière, de base, on n'a pas une formation qui est très approfondie dans le domaine de la fertilité. On ne touche pas beaucoup à ça, mais une fois que je suis arrivée chez Fertilis, c'est sûr que c'est vraiment les médecins qui m'ont tout appris là, en fertilité. Beaucoup de lectures, puis je dirais que pour se tenir à jour, c'est d'aller dans les congrès de fertilité, là, vraiment, avec les organisations en fertilité. Puis, il y a beaucoup d'articles scientifiques, donc évidemment, il faut se mettre à jour, il faut lire beaucoup. Puis, avec l'équipe, on fait des rencontres à chaque semaine pour discuter justement de ce qui a été fait, ce qui est nouveau, qu'est-ce qu'on pourrait essayer. Puis, c'est vraiment comme ça qu'on se met à jour parce que c'est sûr que c'est un domaine qui est extrêmement spécialisé. Donc, il faut aller chercher l'information, là, c'est nous qui doit creuser puis aller.
Oui. Donc, il y a beaucoup de transferts de savoir, j'entends, dans le milieu spécifique à la fertilité.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a justement des centres de formation ou des centres d'études, de recherche qui sont situés dans les alentours de Montréal, qui sont quand même accessibles ou à une personne, homme, femme, infirmier, infirmière, qui aimerait se spécialiser dans la fertilité humaine ou c'est vraiment sur le terrain, dans les cliniques de fertilité, qu'on trouve ce savoir-là?
C'est sûr que c'est plus sur le terrain. Je sais qu'il y a des organisations comme l'ASRM qui offrent des formations. C'est en anglais, donc tu sais, des fois, ça peut être comme un obstacle pour certaines personnes. Ça offre plus aux médecins, donc moins au personnel infirmier. Mais je pense qu'il y a une nouvelle formation là, qui vient d'être offerte pour justement les infirmières. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, on est en train de regarder ça avec l'équipe pour que justement, tu sais, tout le monde puisse y participer. Puis aussi, c'est sûr, les compagnies pharmaceutiques qui font des formations sur la médication, comment la donner, tout ça. Puis vraiment pour se spécialiser au maximum.
C'est super intéressant, merci. Parce que ça nous questionne beaucoup, puis peut-être qu'une nouvelle personne voudrait aller dans la branche de la fertilité, des cliniques de fertilité, donc découvrir un peu plus le parcours pour s'y rendre. Le ratio des couples infertiles est de 1 couple sur 6 selon le gouvernement du Canada. Il a été souligné, en fait, que ce taux d'infertilité-là a doublé depuis les années 1980. Est-ce que dans ta pratique, selon tes expériences, tu es capable de mettre un visage sur l'infertilité? Est-ce qu'elle a un âge, une origine culturelle, un sexe?
Non, en fait, l'infertilité n'a pas un visage particulier. Ça peut toucher tout le monde. Ça peut toucher une sœur, une amie, un frère. Tout le monde peut avoir un problème d'infertilité. C'est certain que des fois, selon certaines origines, on peut voir certaines problématiques revenir plus fréquemment. Ou c'est sûr qu'on sait que la femme, avec l'âge, la fertilité diminue. Ça, c'est ce qu'on connaît. Mais sinon, ça peut toucher tout le monde.
Un couple sur 6 vit ou aura des difficultés à concevoir naturellement un enfant. N'est-ce pas un enjeu de société?
Donc, il n'y a pas de classe sociale non plus à quel point identifier l'infertilité. Bon, c'est super intéressant. Donc, vraiment, ça touche tout le monde, finalement.
Oui.
Et puis, au-delà, en fait, des couples infertiles, hétérosexuels qui viennent dans les cliniques de fertilité. Quels sont les services qui peuvent être offerts à la communauté LGBT, selon toi?
Ben, en fait, il y a plusieurs services qui peuvent être offerts. C'est sûr que je vais parler plus pour Fertilis. Quand on a commencé, on traitait vraiment juste l'infertilité médicale. Okay. Puis par la suite, on a ouvert nos horizons parce que c'était une demande. Donc, on a ouvert aussi nos horizons vers l'infertilité sociale. Donc, pour les couples de femmes qui viennent nous consulter, ils peuvent faire affaire avec un échantillon pour un sperme donneur pour des inséminations. Ça peut être des femmes aussi qui veulent faire qu'on appelle un ROPA. C'est vraiment un don d'ovule d'une patiente, puis c'est sa conjointe qui va recevoir le transfert d'embryon. Donc, l'embryon est fécondé avec un sperme donneur et avec l'embryon de la conjointe. Donc, c'est vraiment pour venir tisser un peu le côté émotif, là, si on veut, là, de dire que c'est vraiment un partage des deux femmes, là, si on veut, pour le bébé. Là, chacune contribue à sa façon pour le bébé. C'est sûr que pour l'instant, en Fertilis, on ne fait pas de mère porteuse. Donc, pour les couples hommes-hommes, pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on offre. Là.
On parle donc, tu as nommé l'infertilité sociale, l'accès justement aux femmes de la communauté LGBT qui souhaitent mettre en œuvre leur projet parental. Il peut avoir des problèmes d'infertilité en soi, là, au-delà de d'aller chercher peut-être un don de sperme pour féconder leur famille. Est-ce que ça vient compliquer un peu les démarches, le protocole, c'est d'autres réalités à prendre en considération, j'imagine, dans votre métier?
C'est sûr, mais à la base, on fait quand même un examen approfondi chez les deux femmes pour s'assurer que, justement, la fertilité est bonne, qu'il n'y a pas de problématique, quoi que ce soit. Donc, c'est sûr qu'on fait les tests avant pour s'assurer que tout est beau. Puis des fois, on découvre des choses qui n'étaient même pas soupçonnées. Donc, si jamais c'est le cas, bien, on va traiter ça. Puis après, on peut procéder là, au traitement. Là.
Quelles sont vos principales responsabilités dans votre métier en tant qu'infirmière en clinique de fertilité?
C'est sûr que nous, notre rôle en tant qu'infirmière, c'est vraiment d'accompagner les couples. Donc, on est là vraiment pour aider les couples à se sentir bien à la clinique, à comprendre leur traitement, puis à répondre à leurs questions. Ça, c'est vraiment important pour nous, sentir qu'on a un accompagnement précieux pour nos patients. Des fois, c'est les gens qui arrivent, sont pas à l'aise. Là. Je connais personne qui est content d'aller consulter en clinique de fertilité. Nous, c'est de vraiment rendre les gens à l'aise le plus possible, qu'ils sont bien entourés, qu'ils ne sentent pas jugés. C'est vraiment notre rôle premier, là, l'enseignement aux patients aussi, là, super important. Là. En tant qu'infirmière, là, on est vraiment toujours avec les patients. Là, on est, je pense, la première ligne. Tu sais, le médecin, il est là pour dire qu'est-ce qu'on fait. puis nous, on est là pour expliquer qu'est-ce qu'on fait.
Et la notion d'enseignement, je la trouve hyper rayonnante sur vraiment, en tout cas, notre vécu, parce que on tombe dans un univers complètement nouveau. Parfois, ben, pour nous, en fait, on se doutait même pas. On n'aurait jamais pensé de la vie qu'on avait un problème d'infertilité. Donc, c'est des termes tout nouveaux. Puis, on n'est pas nécessairement dans un état très réceptif aussi émotionnellement. Donc, c'est ça, le terme enseignement, je pense que votre rôle est très important et apprécié. Justement, quand on a commencé, en fait, nous, on a transféré hein, de clinique pour aller à Fertilis. Donc, c'était notre deuxième clinique en fertilité. Mon amoureux et moi, on était hyper émotifs, stressés, démotivés et vraiment déstabilisés. Donc, à travers ton métier, vous êtes avec tes collègues aux premières loges des grandes victoires, mais aussi de douloureux échecs. Mm-hmm. Donc, est-ce que dans ta carrière, il y a eu des personnes ou des couples qui ont marqué ta mémoire?
Oui, c'est sûr qu'il y a des couples qui ont marqué ma mémoire. Beaucoup de couples. Chaque couple a son histoire, son vécu. C'est des montagnes russes d'émotions qu'on vit avec nos patients. On est proche d'eux. On les voit pas tous les jours, mais presque. Sinon, on se parle à tous les jours. Donc, on est très, très proche de nos patients. Puis, c'est certain que chaque couple va marquer notre mémoire. Mais on connaît les gens par leur prénom. Il n'y a personne qui est un numéro. Donc, on est une petite clinique. Hein, donc, on se connaît. Puis, c'est vraiment, je trouve que c'est des relations privilégiées qu'on a avec nos patients.
Donc, il y a beaucoup d'humanité dans votre milieu.
Oui, tout à fait. C'est vraiment important. C'est notre ligne directrice, là, c'est l'humanité. Là.
Puis, en tant qu'infirmière, comment tu prends soin de toi devant des échecs ou des douleurs que, justement, vous vivez quand même si vous êtes près de vos patients? J'imagine qu'il y a des moments qui sont plus difficiles quand même dans votre carrière.
Oui, tout à fait. C'est pas facile, mais moi, ce que je trouve le plus important, c'est d'en parler, de pas garder ça pour soi, parce que c'est sûr qu'on est touché hein, de près ou de loin là, par les échecs des patientes. Ça nous touche. On pleure avec nos patientes, autant de joie que de peine. Puis, c'est important de s'en parler. On est comme une petite famille aussi, même dans l'équipe. Les infirmières, on va se voir à l'extérieur de la clinique. On est très proches. Donc, c'est vraiment de ventiler ensemble, d'en parler pour après pouvoir retourner quand même à notre vie parce que c'est ça la réalité. Après, on doit retourner à la maison. Donc, il faut essayer le moins possible de ramener les tristesses à la maison, là, évidemment.
Prendre soin de sa santé pour mieux accompagner, enseigner auprès de vos patients, patientes.
Oui,
ça semble être la clé.
C'est important, oui, c'est vraiment important. Faut toujours comme en parler pour être disponible à 100% pour nos patients. Là. On met beaucoup notre vie personnelle de côté pour pouvoir être à 100% là.
Et j'imagine que c'est pas nécessairement toujours facile de faire la part, un peu de rentrer au travail puis de laisser les soucis du quotidien à la maison, mais je suis sûre que vous le faites avec brio.
C'est pas facile, mais c'est notre rôle, puis c'est une vocation. On le fait, puis ça nous fait plaisir de le faire.
C'est tout à votre honneur.
Merci.
Plonger au cœur d'un projet parental sans succès rapide, certaines personnes pourraient être tentées, et sont tentées, d'aller faire mille et une recherches sur les internets, aller prendre des conseils un peu d'une amie, d'une tante, trouver en fait une recette miracle pour un peu booster sa fertilité. Des fois, dans l'objectif, en fait, de trouver un peu plus d'espoir, puis de reprendre un certain pouvoir aussi sur sa fertilité. On peut se perdre aussi dans le tourbillon d'informations, dans la vérité et tout ça. Donc, selon ton expertise, selon ton savoir, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui projettent de concevoir un enfant?
Ben, c'est certain que quand on désire avoir un enfant, c'est un besoin qui est viscéral. Puis, la fertilité, malheureusement, ça apporte de bien prendre soin de soi, bien manger, d'avoir un rythme de vie qui est sain, on n'a pas le contrôle sur ça, OK? Donc, une fois, quand ça fait 12 mois qu'on tente que ça ne fonctionne pas, le mieux, c'est d'aller consulter dans une clinique de fertilité pour avoir c'est vraiment une évaluation complète, puis des conseils de quoi faire par la suite. Mais c'est certain, il faut être prudent avec Internet. Internet, c'est bourré d'informations qui n'est pas toujours bonne. Donc, c'est sûr que mon conseil, ça serait vraiment après 12 mois d'essais infructueux de consulter en clinique. Puis, une fois qu'on est en clinique, ben, tu sais, le personnel est là pour accompagner. Donc, c'est de se laisser guider. Puis, de ne pas hésiter à poser les questions au personnel qui est là.
Donc, vraiment prendre soin de sa santé globale. Je pense tant physique, puis dis-moi aussi psychologique.
Ah oui, oui, tout à fait. Psychologique aussi, c'est super important.
La santé mentale. On l'a abordé avec Serena Québec dans le premier épisode. Sarah et Kim ont également témoigné de l'influence de la difficulté à concevoir sur leur santé mentale. Et dans les prochains épisodes, on en parle aussi.
La clé, c'est d'en parler, de trouver des personnes de confiance. Ben, à ce moment-là, on fait ça, mais il y a des couples qui désirent ne pas en parler, puis c'est comme ça qu'ils sont bien. Fait que c'est de respecter chacun dans ce qu'on est à l'aise ou pas. Mais c'est sûr que la fertilité, c'est encore un tabou, malheureusement. Donc, c'est de trouver des personnes de confiance à qui en parler. Puis des fois, on peut être surpris de la réaction des gens autour de nous puis du soutien qui peut être offert. Non.
Merci à Jessica de nous avoir introduit le métier d'infirmière dans une clinique de procréation. C'est un métier résonnant d'empathie, de passion et d'humanité. La semaine prochaine, la PMA pour tous. Enjeu LGBT+. La GPA, on parle politique, de la loi 20 et de la fertilité pour les personnes trans. On reçoit donc la coalition des familles LGBT+. À bientôt! Une réalisation 100% bénévole initiée par la Cigogne n'a pas notre adresse. Merci à Dave Racine pour la composition musicale.